Je vais vous présenter un livre qui s'appelle L'Imagement de Jean-Christophe Bailly. Jean-Christophe Bailly est un écrivain né en 1949. Il est l'auteur de plus d'une cinquantaine de livres qui arpentent tous les champs de l'écriture, à l'exception du roman. Essais, récits, recueils de poésie, pièces de théâtre. Il a fondé et dirigé des revues, dirigé des collections chez Christian Bourgois et Azan, enseigné à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois. Quand on le présente comme philosophe, il dit ne pas se prétendre tel. Il dit n'avoir pas le cursus et le savoir d'un philosophe, bien qu'il soit devenu en 2004 docteur en philosophie. En revanche, il dit avoir lu beaucoup les philosophes, avoir des liens avec eux. Il fut un ami proche de Philippe Lacoulabarthe et se servir d'eux dans sa réflexion. Ce qui caractérise son œuvre, c'est la curiosité, le champ très large de ses intérêts. À cet égard, je me réfère à ce qu'il dit lui-même dans « Tuiles détachées ». Une sorte d'autobiographie qui définit bien, à mon sens, ce qu'il est. Il évoque le souvenir d'un récit de Champollion, la carrière centrale. Une grande carrière au bord du Nil, dans laquelle ce dernier donne à chaque membre de l'expédition une direction différente pour explorer toutes les excavations. Dès que l'un d'eux aperçoit inscription ou sculpture, un coup de sifflet se fait entendre et Champollion se rend sur place pour apprécier l'importance de la découverte. Jean-Christophe Bailly y voit une allégorie de l'existence, à la différence que l'on ne dispose pas d'une équipe et qu'on est seul à entendre les coups de sifflet qui, de différents points, sont lancés par le réel. Je cite, s'il dit, « Ces appels, du moins ceux que j'entends et auxquels je prête attention, loin de provenir d'une seule direction, proviennent d'à peu près toutes. Loin aussi de ne consigner qu'un domaine d'étude ou d'attention, ils en concernent beaucoup. » Dès lors, ce qui s'ouvre au-delà de la séduction propre à chacun d'eux, c'est un tourment. Incapable en effet de résister à la multiplicité de ces appels distincts et éloignés les uns des autres, je me suis bien souvent retrouvée écartelée entre eux. N'étant spécialiste dans aucun domaine, je me suis jetée autant qu'il était possible dans des directions opposées, sans doute à terme réconciliables, mais le malheur est que ce terme lui-même dépasse les possibilités d'une vie. Sa démarche, qu'il a autrement appelée « saisir », c'est le titre de l'un de ses livres, en fait à mes yeux un écrivain passionnant et formidable. Parmi les titres les plus connus, « Le dépaysement », »,« Le parti pris des animaux », il est aussi l'auteur de la pièce de théâtre « Une nuit à la bibliothèque » qui avait été donnée à l'IMEC il y a quelques années, sans doute certains d'entre vous l'avaient vu. Il a été très tôt en contact avec les images par l'intermédiaire du peintre Jacques Monory, qui était un cousin de son père. Et la question de l'art et de l'image est récurrente dans son œuvre. Parmi ses essais plus particulièrement consacrés à l'art, à l'image, on peut citer « Le champ mimétique », qui était le sujet de sa thèse de philosophie, ou « L'instant et son ombre ». Donc ce livre-ci est la réunion de textes, conférences, articles publiés dans des revues, articles publiés dans des catalogues d'exposition, écrits entre 2002 et 2018, que l'auteur présente comme des tuiles, réunis sous une sorte de toit commun qu'il nomme l'imagement, lequel peut être défini comme les processus par lesquels on passe d'un monde imageable à des faits d'imagement désirés comme tels, des images. Donc désirés comme tels, c'est-à-dire il ne s'agit pas, par exemple, des ombres ou des reflets qu'on peut trouver dans la nature, ni des images internes, mais des images qui demeurent, les traces. L'image dont il est question dans ce livre, c'est l'image surface, l'image suspens, et non l'image mouvement. Mais c'est l'image issue de l'ensemble des modes d'imagement, peinture, dessin, photographie. Et le livre traverse toutes les époques. Ce qui est très plaisant, ce que je trouve personnellement très profond, c'est cette ouverture que l'on rencontre dans tous ces livres. Qu'il s'agisse des grottes de Lascaux ou des œuvres d'art les plus contemporaines, l'auteur les convoque avec la même ouverture, la même capacité d'intérêt et d'analyse. Il dresse des ponts entre les époques, relie les choses, il a une façon d'envisager l'art abstrait, l'art contemporain, le moment où nous sommes, d'une façon positive, intelligente, emballante. On retrouve dans ce livre les mots fétiches de son vocabulaire, dormance, provenance, glissement, écho, sillage, rebond. Le philosophe Jean-Luc Nancy dit de lui que la marque principale de son talent, c'est de respecter l'enchevêtrement, la complexité, et en même temps de tirer des fils très clairs. C'est ce que je trouve aussi. Ce n'est pas un essai, ce livre, donc, n'est pas un essai sur la civilisation de l'image, ni un travail d'interprétation des images ou d'histoire de l'art. Sans rejeter, bien sûr, le monde d'analyse de l'histoire de l'art, ni préconiser de sortir l'image de son époque ou de l'histoire, il propose plutôt d'aller au-delà, d'interroger le statut de l'image, l'essence de l'image, l'effet de sidération qu'elle produit, l'expérience, l'acte du regard, le comment parler de la complexité de l'image et de la rencontre avec elle. La promenade parmi les images est philosophique, érudite, exigeante, dense, mais en même temps extrêmement vivante, accompagnée de reproductions d'œuvres magistrales évoquées ou, de façon plus ludique, d'un présentoir de cartes postales de l'auteur. Elle est faite dans une langue très brillante et élégante. On y croise les concepts de suppléance de Derrida, d'aura ou de teneur de vérité de Benjamin, le brouillon général de Novalis et bien d'autres concepts et théories. Ce livre étant lui-même aussi un bel objet, dont la couverture a été choisie avec soin par l'auteur, il résume et illustre en quelque sorte son propos. Alors je ne sais pas évidemment si vous pouvez voir quelque chose de là où je suis. Il s'agit d'un dessin au crayon de Georges Seurat, ayant pour titre « La maison hantée ». Donc je cite Jean-Christophe Bailly, « Dans un poudroiement qui a les qualités de l'aléatoire, quelque chose s'organise en formes reconnaissables qui ont l'air d'être en train d'apparaître ou de disparaître. Se trouve ainsi exprimée la force avec laquelle, devant nous, une image se souvient et celle avec laquelle elle nous demande d'identifier selon ce dont elle est le souvenir. » Donc image, apparition, devant nous, souvenir, dès la préface, donc quelques-uns des mots-clés de l'ouvrage. Et avant d'aborder cette fois directement le livre, je voudrais encore une fois citer un propos de l'auteur qui me paraît l'annoncer aussi, le propos du livre, dans tout ce qu'il a de passionnant. Donc je cite, « Comme tout à chacun, je vais au musée, surtout à l'occasion des voyages, et c'est toujours une joie. Ce geste, aller au musée, je n'ai jamais compris qu'on puisse en faire un acte culturel, entre guillemets, ou qu'on puisse le détacher du ruissellement de l'existence. Dans le monde continué, que chaque regard par les fenêtres du musée confirme et en même temps décale, les parois et les cimaises présentent des fragments de monde arrêtés, des extraits, des sautes d'intensité. Ce pas de deux entre le temps palpable du percept et le temps immobile de ce qui est perçu, rien n'est plus déroutant, rien ne donne tant envie de vivre. » Alors, comme cet ouvrage est un ensemble de textes, je ne vais pas évidemment pouvoir vous parler de façon exhaustive de chacun d'eux, ni du tout de tous les thèmes abordés. Je voudrais plutôt essayer de manière un peu transversale de présenter, dans un premier temps, le vocabulaire de Jean-Christophe Bailly, les mots qui me paraissent incarner sa réflexion touchant à l'être des images et à leur essence, et dans un second temps, le processus de l'expérience, de la rencontre avec les images. Alors, dans un premier temps, l'essence des images et les mots, donc. Alors, la sortie, la prise. L'image est toujours seconde. Elle ne peut être image que de quelque chose. Elle est entrelacement de non-être et d'être, simultanéité d'une présence et d'une absence. Le récit, qui est donné par l'Antiquité comme origine rétrospective de l'image figurative, est celui fait par Pline l'Ancien qui se réfère lui-même à une tradition. Une jeune fille de Corinthe, Dibutade, entoure d'une ligne l'ombre de son amant, qui va partir, projetée contre un mur par la lumière d'une lanterne. Le père, potier, réalisera à partir du contour un relief qu'il fera durcir au feu. Ainsi, la jeune fille détache l'ombre et la projette dans le temps, comme le rappel d'un instant qu'elle a suspendu. Elle invente la prise. Quelque chose est pris au réel, mais quelque chose qui ne lui manque pas, puisque la prise ne prend rien mais dépose. C'est une chute abandonnée du passage du temps, un arrêt sur image du film du vivant. L'image extrait quelque chose du monde, sans l'affecter. Mais tout extrait est simultanément un abstract. On prend très peu à l'être, voire rien du tout, et pourtant, quelque chose du réel vient s'entrelacer et se suspendre. En chaque image subsiste quelque chose de la vérité. Quelque chose de réel vient s'entrelacer. Quelque chose se souvient du point de départ. la stagnation, le dépôt. Sorti de l'être, l'image est un pur en aller, mais cette allée se suspend. Il se tient dans l'immobilité qui sera son voyage. Dans le temps, comme dans l'espace, l'image est, est une encoche, un arrêt. Elle est un extrait, mais aussi une complétude. Elle est finie, elle est toujours finie. Elle sort du temps et s'y propose et s'y impose comme une stase. Au tout arrive du vivant battement des occurrences, l'œuvre d'art est ce à quoi plus rien n'arrive. Elle est ce qui a réussi, au moins pour un temps, à sortir de la loi du périr. Le retrait, la césure. L'image, par laquelle s'effectue le passage de l'imageable à l'imagé, n'est possible qu'au prix d'une détente ou d'un retrait. Elle est ce retrait. De la vie débordante, elle provient, mais en installant une césure qui sera sa demeure. L'envoi, les notions d'envoi, d'écho, de copeau. Le chemin, qui commence par un envoi lointain, ne s'achève pas dans l'œuvre, mais se poursuit par quantité de petits rebonds, que l'on peut lire comme autant de copeaux débités à partir d'un matériau inépuisable. Dans l'image, le premier pas est déjà un écho. Les échos des échos sont de l'essence de l'image aussi. Du moins, c'est ce que pense Jean-Christophe Bailly. Donc, il fait allusion, bien sûr, à la question de la reproduction des œuvres, allusion à la thèse de Walter Benjamin. Pour Jean-Christophe Bailly, lui, la question de la reproduction touche à la qualité du percept et à sa diffusion, mais pas à l'essence de l'image. Dans l'image, le premier pas est déjà un écho, les échos des échos l'affaiblissent, mais ne sont pas de nature différente. Par exemple, les cartes postales maintiennent et propagent l'essence de ce qui est image. Ensuite, le seuil. Donc, ce mot est très important chez lui. L'image s'oppose, elle fait front. Elle est la pure désignation du distinct. Elle arrête le distinct. Elle est la violence de l'insistance. Elle coupe les flux, et fait seuil devant elle. Elle détache le visible de lui-même pour le rendre distinct, pour le faire résonner en tant que visible. Du visible a été vu, nous dit l'image, et maintenant, regardez-le. Le seuil n'est pas une limite à ne pas franchir, mais un espace devant lequel on se tient, un espace qui s'est ouvert entre le côté où l'on est et l'autre côté immédiatement vécu comme une altérité. Cet espace est celui de l'émission de sens. Le travail de seuil, cette expression, c'est aussi ce qui suspend la leçon du sens. L'interruption du discours et le recul. L'image, elle est une demeure qui est muette. Elle provoque une secousse qui interdit dans un premier temps les mots. Sa signifiance étale et complète, son insistance muette sont un défi pour le langage, qui dans un premier temps doit accepter sa défaite. Depuis le seuil qui est le sien, l'image nous fixe. Certaines images ont un seuil infini, il n'y a pas de règle, les images n'existent que regardées. Et c'est donc le moment d'aborder la rencontre entre l'image et le regardeur. Alors cette rencontre, donc le deuxième temps de mon exposé, elle se situe entre deux régimes ou espaces d'infinition. L'œuvre s'est séparée de quantités d'hypothèses pour se fixer sur un point. Elle est sortie de l'avenue pour entrer dans l'advenu. Il y a eu donation, sortie. Elle fait halte, puis elle va retentir de façon infinie dans le temps. Il y a des œuvres qui peuvent être ce qu'il appelle de très longues dormances, dont le sens ne s'éveille que très longtemps après. Elle va retentir de façon infinie dans l'espace, dans la foule des regardeurs, qu'il soit savant ou naïf, rétif ou attentif. Il y a donc rencontre de deux parcours, celui que l'image a accompli pour pouvoir être rencontrée et celui de l'individu singulier qui la rencontre. C'est un nouage comparable à une pierre plate qui ricoche à la surface d'une eau tranquille. L'effleurement est l'événement à partir duquel tout commence. La rencontre entre un projectile, l'œuvre, et une surface, le regardeur, produit sur celle-ci des éclaboussures et des ondes. Et c'est toujours une rencontre unique. Chaque chemin d'interprétation, chaque levée de sens est unique. Chaque regard est différent. Mais il faut que l'image produise pour être une intensité, qu'elle produise un écart, qu'elle propose un saut. L'image n'est pas seulement capture, captation, mais art de garder, de tenir caché ce qui a été pris. Le visible contient le caché, qui est lui-même ce qui se cache devant nous en pleine vue. En tout cas, la seule expérience que nous puissions faire avec l'œuvre, c'est quand nous la rencontrons. Pour Jean-Christophe Bailly, le mouvement le plus juste, le plus justifiable d'une approche critique de l'œuvre serait d'identifier cette levée de l'œuvre, ce qu'elle chuchote à notre conscience. En tout cas, c'est toujours une approche directe, singulière, résultant d'un contact et d'une expérience. Voilà, il va donc y avoir le seuil, suivi d'un silence, les mots sont « puis » va venir notre commentaire. Entre guillemets. Comment vient-il ce commentaire ? Ce n'est pas celui, le commentaire dont parle Jean-Christophe Bailly, ce n'est pas celui du discours et des différentes formes d'accompagnement institutionnel des œuvres, ni celui de l'histoire de l'art, d'une doctrine, d'une leçon. C'est plutôt une sorte de montage, un film inachevable et inquiet, un déploiement par association. Souvent, l'œuvre est exposée à côté d'autres, soit réellement, soit dans un livre, un catalogue. Association en nous, l'association libre en nous par rapport à un tas d'autres images que l'on peut avoir en tête. C'est une forme de poursuite, une affaire de sens sans cesse réenclenchée. Il n'y a pas de mécanisme. Aucun regardeur n'a le même contact avec une image et aucune image ne dicte le contenu de sa résonance. Il faut apprendre à contourner les conditions d'accompagnement du contact avec les images qui aménagent le contact avec elles et préparent un parcours signalisé et restreint. Alors, on peut, à la suite de Jean-Christophe Bailly, prendre un petit exemple, celui d'une... Alors, là, c'est pareil, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, je n'ai pas de reproduction plus grande. C'est une petite œuvre, ma copie est en noir et blanc, de Rodin. Une petite œuvre de 15 cm, je crois. C'est une coupe antique, très simple, avec une petite... une femme nue agenouillée à l'intérieur qui porte la main gauche à sa tête. Que peut-on dire de cette œuvre ? D'un côté, et d'abord, rien. Il y a désir de la laisser flotter, selon son énigme, présence délicate et légère, à laquelle on craindrait de rajouter quelque chose. Mais aussi, juste après, comme une suite de ce seuil silencieux, c'est comme si le petit assemblage glissait de lui-même sur un plan d'interprétation, où très vite tout se superpose, formant une sorte de rêverie herméneutique où viennent des tas de choses. Par exemple, on peut penser à des évocations contemporaines, les baigneuses de Degas, le tube, je ne sais pas si on prononce tube, pas le bassin dans lequel on se baignait jadis, les pages d'Eisenstein à ce sujet, ça ce sont les références de Jean-Christophe Bailly, un lasso qui attire le spectateur, le geste de se coiffer, la toupie. On pense à tout ce qu'il y a à dire sur l'assemblage comme mode de fonctionnement, aux encodages archaïques du monde des statuettes. Et se produit alors comme un chantonnement. L'exégèse, dit-il, est un chantonnement. Elle doit chantonner en répétant ce qu'elle a vu. Donc voilà, on a des pistes divergentes qui impliquent des plans de réverbération différents, histoire de l'art, jeunesse de l'œuvre, études comparatives, mais aussi quelque chose qui est en deçà de ces plans. L'aspect simple, sans déclamation, la grâce, l'aspect aussi grêlé, les légers accidents de la surface, les déformations, qui disent quelque chose justement de cette surface, de ce qu'est une surface, à savoir le mode, l'unique mode d'apparition des choses. La surface attire le toucher. Et ce qui arrive si on en vient à toucher, alors évidemment on ne peut pas, comme il dit, souvent toucher les œuvres d'art, mais ce qui vient, si on en vient à toucher, c'est l'ouverture d'un nouvel infini. Ni l'errance de l'œil, ni l'aventure de la main dans l'espace n'ont de fin assignable. Il cite Herder. De façon générale, tout ce que notre main tâte paraît plus grand que ce que notre œil voit à la vitesse de l'éclair. La main ne tâte jamais complètement, elle ne peut saisir une forme en une seule fois. La main n'en a jamais fini, elle ne s'arrête jamais, elle tâte pour ainsi dire à l'infini. Alors, on pourrait penser qu'on est loin de notre propos, mais non, Jean-Christophe Bailly nous dit que ce faisant, Herder, qui réhabilite le toucher, invente l'idée d'une vision tactile. Et dit-il, ce qui s'indique avec le mouvement qu'aurait la main, de reconnaissance de la forme, d'exploration de la limite et de la plénitude qu'elle renferme, c'est un cheminement contigu à celui qu'empruntent les yeux. Mais la différence, c'est que le toucher retarde la venue des noms et dilate la forme dans une sorte de nuit. Il y a alors comme un prolongement de la césure, comme une allonge, on reste un peu plus longtemps sur le seuil. C'est comme si le toucher s'avérait le raccourci le plus sûr entre le sensible et l'intelligible. À ce moment de son propos, Jean-Christophe Bailly va aussi commenter une œuvre qui est d'un artiste vénézuélien, réalisée en 2007. Ça montre l'étendue que je vous évoquais des œuvres dont il parle, qui est un film montrant des aveugles palpant des éléphants. Je ne m'attarde pas davantage sur ce film, qu'on ne peut pas voir. Ce qu'il en déduit, c'est que s'ouvre par le contact une exégèse infinie dans laquelle on reconnaît toute expérience d'approche du sensible. Ce qui est montré, dit-il, c'est un commencement, une découverte au point précis où la rencontre a lieu, de deux existences bouclées à l'intérieur d'elles-mêmes. Voilà, donc ce que cherche à nous dire Jean-Christophe Bailly, et cela pourra être une conclusion, c'est que devant toute œuvre, nous sommes des témoins et non des connaisseurs. Des êtres vivants appelés à participer à une expérience. Il ne s'agit pas d'être dans un esprit polémique visant le savoir ou l'accumulation des connaissances, mais ce qu'il entend nous dire, c'est que devant toute œuvre, quel que soit le chemin par lequel on arrive à elle, et quel que soit celui que l'on se sent d'emprunter, l'ayant vu et palpé le plus longtemps possible, il faut d'abord être aux aguets de ce silence qu'elle ouvre en nous, et selon lequel elle nous parvient. Ce silence, on peut le décrire comme un seuil, comme un espace de probation du sens, comme une salle d'attente, où les mots, qui dans un premier temps ne se bousculent pas, finissent par affluer. Alors les œuvres, achevées ou en tout cas abandonnées à leur destin de choses finies, recommencent à vivre. Voilà.